l'invité du jour.
7 heures passées de presque 45 minutes, le candidat socialiste aux législatives, député suppléant Nicolas Brienne est notre invité ce matin. Bonjour.
Bonjour, bonjour à tous.
Vous inaugurez ce soir votre accueil de campagne, c'est comme ça qu'on l'appelle. Alors, dans un bar, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout va sur la note de Nicolas Brienne?
Alors, je vous rassure, il y a deux notes séparées, mais effectivement, ça se passera au Galopin, qui est donc un bar situé juste en face du lycée Madame de Staël. L'objectif, c'est d'envoyer un signal, c'est de dire... on va ouvrir les portes et les fenêtres de la politique. On va arrêter de faire ça dans des locaux à huis clos, entre apparatchiks. On va essayer véritablement d'ouvrir les portes et les fenêtres. Donc concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que n'importe qui pourra passer du lundi au samedi, de 9h à 17h. Il y aura toujours quelqu'un pour répondre à ses questions, pour l'accueillir. Et s'il a envie de donner un coup de main, il sera toujours le bienvenu.
D'accord, on vient librement. Il y aura toujours des membres de votre
équipe? Tout à fait, des membres du comité de soutien qui seront présents pour orienter les uns et les autres, pour partager un petit moment. Si vous avez un point d'accord, un point de désaccord, vous pouvez venir et surtout échanger, débattre. C'est ça normalement que devrait être la politique.
Alors justement, on reste dans ce domaine des législatives. Vous avez présenté la semaine dernière vos priorités en matière d'emploi, vos propositions tout du moins, avec la volonté, c'est ce que vous avez dit, de ne pas partir du prêt-à-penser, pas quelque chose de tout prêt. Vous êtes parti des besoins du territoire, c'est ce que vous défendez.
C'est ça, moi je suis parti de la base, je suis parti de ce que les membres, notamment ouvriers de mon comité de soutien, me disaient depuis des mois. Mm-hmm. Moi j'en ai assez des programmes tout cuits qui tombent de Paris et qu'ensuite les politiques récitent religieusement lors des campagnes électorales, ça c'est fini. Ça, je crois que la politique à papa de ce point de vue-là, c'est fini. Et donc on fait quelques propositions concrètes. Les gens, ils en ont assez d'entendre du blabla, ils veulent savoir à la fin du mois ce que ça va changer sur leur feuille de paie. Donc on a fait 2-3 propositions concrètes, avec une ligne force, c'est de dire... Contre le chômage, on n'a pas tout essayé. C'est faux. Il faut arrêter de se raconter des histoires. Dans un bassin comme Montluçon, on peut encore créer du travail, à condition d'y mettre les moyens, à condition d'innover un petit peu.
Alors, 4 propositions au total. Parmi ces 4, celles que vous souhaitez mettre en avant, les 4, j'imagine, mais on n'aura peut-être pas le temps d'évoquer tout cela.
Je peux tout développer, bien évidemment, mais il y en a une, moi, qui me paraît fondamentale, c'est de dire que le travail ne paie plus aujourd'hui. Il faut retrouver un moyen... pour que le travail paie à sa juste valeur les agriculteurs, les ouvriers, les aides-soignantes qui se lèvent tôt le matin. Donc très concrètement, ce que je propose, c'est de rapprocher le salaire brut du salaire net. Aujourd'hui, quand vous prenez la feuille de paie d'un smicard, vous avez 300 euros entre le salaire brut et le salaire net. C'est-à-dire entre ce qui est inscrit sur la feuille de paie et ce qui atterrit effectivement dans la poche de la personne qui travaille. Je propose de rapprocher ça et d'en donner un peu plus dans la poche des salariés avec un mécanisme simple, c'est une baisse massive de la CSG, donc des cotisations sociales. Très concrètement, moi et mon équipe, on a calculé, ça ferait l'équivalent d'un 13e mois pour chaque salarié. Et ça, je pense que dans le contexte qui est le nôtre, on peut tout à fait le vivre. Comment on finance cette mesure? L'objectif, c'est pas de raser gratis. Une baisse de cotisations sociales serait compensée par un mécanisme un peu audacieux, mais auquel je crois fortement. Ce serait d'obliger les entreprises qui délocalisent à rembourser les aides publiques qu'elles ont perçues dans les 3 ans précédant les suppressions d'emplois. C'est pas ça, par exemple, ça pourrait s'appliquer dès aujourd'hui à l'entreprise Whirlpool qui est en train de délocaliser en ce moment de manière tout à fait scandaleuse.
Il y a une proposition aussi pour les chômeurs longue durée. C'est d'aider notamment les entreprises sociales et solidaires, pour leur permettre d'embaucher et plutôt que de donner des indemnités à des chômeurs longue durée.
Je pense qu'effectivement, pour un chômeur comme pour l'État, c'est important qu'on puisse percevoir 1000 euros de salaire plutôt que 1000 euros d'indemnité. Très concrètement, un chômeur de longue durée, donc un chômeur qui est au chômage depuis plus de 2 ans, coûte à la société environ 15 000 euros par an. Donc ces 15 000 euros, plutôt que de les verser sous forme d'indemnités diverses et variées, moi je considère qu'il vaudrait mieux les verser à des entreprises de l'économie sociale et solidaire qui s'engageraient à embaucher ces chômeurs en CDI, à les former et à les remettre dans le chemin de l'emploi. Ça existe déjà d'une certaine manière dans le secteur associatif. Vous avez beaucoup d'initiatives de ce type-là. Et tout à côté de chez nous, ce serait par exemple les Jardins du Cœur à Montluçon, qui prennent des chômeurs de longue durée, des personnes qui sont parfois vraiment abîmés par la vie et qui, grâce au métier de la terre, leur remettent le pied à l'étrier. Je pense que voilà, il faut s'inspirer de ces dispositifs innovants là et arrêter de dire que contre le chômage on a tout essayé. C'est faux, on n'a pas tout essayé contre le chômage.
Alors des propositions certes, il faut déjà donc que vous soyez élu, mais même si vous êtes élu, comment vous faites ensuite pour les appliquer, puisque vous n'êtes pas candidat à la présidentielle.
Je suis candidat à la présidentielle, ou alors ce serait une sacrée surprise.
Ah ouais. Tout peut arriver en même temps, dans le contexte actuel.
En ce moment, il y a un tel jeu de massacre. Je pense tout simplement qu'un député, il est là pour faire son job. Et son job, c'est quoi? C'est de proposer des lois, c'est de proposer des amendements. On a beaucoup trop de politiques qui considèrent qu'occuper un poste, c'est s'asseoir dans un bureau. Moi, je ne fais pas partie de ces gens-là. Je considère que ces idées sont tout à fait réalisables et qu'on est capable de rassembler des gens de bonne volonté autour de ces idées, de construire des coalitions et de déposer des projets de loi, des propositions de loi qui tiennent la route.
Alors justement, on parlait de la présidentielle, la primaire de la gauche, ça y est, on connaît le candidat. Benoît Hamon, vous allez soutenir qui?
Moi, je n'ai jamais menti. Hein. Au niveau local, j'ai décidé de construire un arc des progressistes. Donc très concrètement, j'ai choisi une suppléante qui vient du Front de Gauche, qui votera probablement Mélenchon aux élections présidentielles. Je suis socialiste, oui. Donc je voterai pour le candidat socialiste, et je travaille également avec des gens qui soutiennent Emmanuel Macron, qui voteront Emmanuel Macron. Je pense que tous ces gens-là, s'ils sont capables de s'entendre sur des bonnes solutions, des bonnes idées, ce que je disais, les bonnes idées, il faut pas se les faire imposer de Paris, il faut les piocher là où elles sont. Ça, c'est le sens de ma démarche, et c'est comme ça que je vais avancer jusqu'au présidentiel et au-delà.
Mais en tout cas, vous soutiendrez donc le candidat socialiste?
Moi, je fais pas partie de ces gens qui essayent de zigzaguer en fonction des circonstances, de renier leur étiquette. Moi, j'ai fait le choix d'être socialiste il y a une dizaine d'années de cela. J'ai pas l'intention de renier mes engagements sous prétexte que ce serait plus difficile en ce moment pour la gauche. Non, je pense qu'à un moment, les électeurs, ils cherchent pas des gens de gauche ou de droite, ils cherchent des gens intègres, déterminés et qui renient pas leurs engagements.
Et a priori, vous ne voterez pas pour François Fillon s'il est encore candidat.
Quelle est votre
perception là de la crise actuelle du Penelope Gate comme on l'appelle.
Moi, très clairement, je m'étouffe moi quand je vois des choses comme ça. Dans quel monde est-ce que ces gens-là vivent? On parle de 7000 euros par mois. De politique là, d'argent du contribuable qui a été versé à l'épouse de François Fillon. J'entends les candidats de droite qui nous disent oui mais attendez, si ça se trouve c'est légal. Mais attendez, mais c'est bien ça le problème, c'est que ce soit légal. On va pas. Depuis quand ce serait légal de verser 7000 euros à son épouse d'argent public pour un travail qui, excusez-moi, est encore loin d'être prouvé. Donc ça, je m'étais engagé en entrant dans cette campagne à faire une proposition de loi claire et précise de rénovation de la vie publique. Moi, je pense qu'à un moment, faut séparer l'argent de la politique. Il faut une loi de séparation de l'argent de la politique. Ça devrait plus être possible de s'enrichir en faisant de la politique. La politique, à l'origine, c'est quoi? C'est pas un métier. C'est un engagement, c'est une passion, c'est des gens qui ont envie de faire bouger les choses. Ça devrait pas être un moyen de s'en mettre plein les fouilles. Excusez-moi l'expression. Moi, je crois sincèrement qu'il y a deux types de politique dans ce pays. Il y a ceux qui sont là pour servir et il y a ceux qui sont là pour se servir. Et clairement, la justice tranchera rapidement pour savoir de quel côté de la barrière se situe François Fillon.
Un petit mot des mesures de carte scolaire pour le département de l'Allier. Elles seront débattues mercredi prochain du côté de 10h. Vous aviez annoncé sur votre page Facebook qu'il n'y aurait pas de suppression d'écoles rurales dans le bassin montluçonnais. Vous confirmez, mais il y a quand même pas mal de suppressions de classes en revanche.
Voilà, moi c'est un engagement que j'ai pris depuis de longues années. C'est de me battre à chaque rentrée scolaire pour qu'il n'y ait pas de fermeture d'école sur le bassin montluçonnais. J'ai réussi en zone rurale à tenir cet engagement. Il n'y a pas eu d'école fermée depuis juin 2012. J'ai échoué en milieu urbain puisque j'ai pas réussi à empêcher le maire de Montluçon de fermer 3 écoles dans les quartiers populaires. Là, à la rentrée 2017, on a plutôt des bonnes nouvelles, c'est-à-dire qu'il ne devrait pas y avoir de fermeture d'école en milieu rural. En revanche, évidemment, vous avez parlé des fermetures de classe.
23 selon le syndicat du IPP03.
Voilà, les fermetures de classe, c'est pas forcément une décision politique. Les fermetures de classe, ça dépend en fait du nombre d'élèves et ça fluctue. Hein, c'est-à-dire, des années on en ouvre, des années on en ferme. Mais par exemple, moi j'ai en tête l'exemple d'un village dans lequel on a une classe où il y a 19 CM2 et puis 6 CP. il est évident que pour des raisons purement démographiques, le jour où les CM2 partent et où les CP arrivent, et ben là, effectivement, on a un petit différentiel d'élèves qu'il faut compenser avec une fermeture de classe. Mais encore une fois, c'est pas forcément dramatique puisque c'est lié aux fluctuations démographiques et c'est pas parce qu'une année on supprime une classe que l'année suivante on peut pas la rouvrir. Faut juste par contre qu'il y ait des gamins puisque ça c'est la base notamment pour faire vivre nos villages.
Il nous reste 30 secondes pour évoquer le rendez-vous de cette semaine au ministère, en tout cas avec le directeur de cabinet du secrétaire d'État au transport. On se réjouit de ce qui a été confirmé lors de cette entrevue-là, parce qu'il y a différentes visions, hein, selon qu'on est de droite ou de gauche. À l'issue de cette réunion, on n'a pas le même point de vue.
Que l'on soit de droite ou de gauche, je pense qu'on devrait œuvrer dans l'intérêt général. L'intérêt général, c'est quoi? C'est d'avoir des trains directs qui circulent, notamment entre Montluçon et Paris, avec un temps de trajet décent. Ça, c'est un autre de mes combats depuis plusieurs années, c'est de faire en sorte que le temps de trajet sur Montluçon-Bourges-Paris revienne à des niveaux acceptables. En sortant du ministère, on a eu une confirmation, c'est que pour la première fois depuis 1977, les trains seront remplacés sur la ligne Montluçon-Bourges-Paris. Aujourd'hui, nos trains datent de 1977. Alors, je sais pas qui sont les politiques de droite ou de gauche qui s'amusent à polémiquer avec ce genre de choses, mais j'ai envie de leur dire, où est-ce que vous étiez depuis 1977? Pourquoi vous avez pas mis les mains dans le cambouis un petit peu avant? Pourquoi vous avez laissé la situation empirer? Je crois que maintenant, les choses avancent. Elles avancent jamais assez lentement, mais les choses avancent
vers
une amélioration de la desserte ferroviaire de Montluçon. Et ça, je pense que l'on soit de droite ou de gauche, on devrait tous s'en féliciter.
Nicolas Brienne, merci d'avoir été avec nous.
Merci, belle journée.
L'invité du jour.